Vivez appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient dans 30 minutes donc. Vos réactions sur le prix Nobel de la paix 2017, un prix attribué à la campagne pour l'abolition des armes nucléaires, une coalition de plus de 400 ONG qui appelle à reconnaître la nécessité d'interdire totalement les armes nucléaires. D'ailleurs, en juillet dernier, l'ICAN a poussé à l'adoption d'un traité interdisant l'arme atomique. 122 pays l'ont signé, certains ont parlé de traité historique. Sa portée est somme toute symbolique puisque les 9 puissances nucléaires refusent d'y adhérer. En tout cas, le comité norvégien a tenu à souligner la grande menace que représentent ces armes pour la paix mondiale, d'autant que le contexte international, vous le savez, est particulièrement tendu, avec notamment la multiplication des essais nucléaires nord-coréens. Alors, que vous inspire le choix du Nobel, du comité Nobel? La fin des armes nucléaires est-elle, selon vous, une utopie? Vos réactions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, à cette heure-ci, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, votre rendez-vous privilégié avec nos journalistes qui vous répondent en direct. Idriss, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à Alexandre Billet à Istanbul en Turquie et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Alexandre Billet qui est notre correspondant effectivement en Turquie, s'il nous écoute on le salue bien évidemment. Vous êtes à Abidjan en Côte d'Ivoire, quelles sont vos questions?
Ok, d'accord. Juan, j'ai une question qui concerne l'Érythréen qui a été arrêté au Soudan en 2016. Alors, le procès de ce jeune Érythréen s'était repris à Palerme en Italie, et qui a été accusé de trafic de migrants. Alors, l'accusé ni être la personne recherchée. Alors, de quelles preuves la justice italienne dispose pour l'inculper? Et quelle peine risque-t-il?
Ouais, l'histoire incroyable de cet Érythréen, Medani Tasfamariam, est-il finalement le chef du plus gros réseau de passeurs d'Afrique du Nord, comme le soupçonne la justice italienne, ou est-il un simple migrant? Clémentine Plavoski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Alors c'est vrai que depuis son interpellation au Soudan en mai 2016, l'homme en question clame son innocence. Il a certes le même prénom que ce fameux trafiquant recherché, mais il affirme qu'il y a une erreur sur la personne, une erreur d'identité. Vous avez pu, Clémentine, vous entretenir avec l'avocat de cet Érythréen. De quelles preuves dispose la justice italienne pour l'inculper?
Alors, il y a d'abord les preuves matérielles présentées par l'accusation, à savoir le téléphone portable de l'accusé, le téléphone qu'il avait sur lui au moment de son arrestation par la police soudanaise. Son avocat m'expliquait que son contenu avait été intégralement fouillé par deux experts. Ils ont notamment retrouvé des photographies montrant des corps mutilés. Alors, cela ne suffit évidemment pas à prouver qu'il y a un lien entre le jeune homme dans le box des accusés et le trafic de migrants dont il est question dans ce procès, mais c'est un élément qui est utilisé contre lui comme preuve de sa culpabilité. Autre élément mis en avant par l'accusation, des écoutes téléphoniques du vrai trafiquant présumé datant de 2014 qui ont été comparées avec la voix du jeune Érythréen arrêté en 2016 et il a été déduit que les deux voix correspondaient. D'autres écoutes ont révélé que Medani Tesfamariam avait passé plusieurs coups de téléphone à un passeur en Libye. Les procureurs italiens interprètent ça comme une preuve de sa culpabilité, mais attention, il faut bien se rappeler que Medani est un jeune réfugié érythréen au Soudan. Il est tout à fait banal dans ce contexte qu'il ait eu affaire à un moment de sa vie à des passeurs, surtout dans cette région. Donc là, on est face à un problème d'interprétation de la part de la justice italienne.
Il y a tout de même, Clémentine, plusieurs éléments qui viennent fragiliser, voire même contredire ces preuves qui inculpent le jeune Érythréen.
Oui, alors le dossier d'accusation ne tient pas du tout la route. L'avocat a collecté de nombreux documents, témoignages allant dans ce sens, mais il n'est pas le seul. Plusieurs médias, plusieurs journalistes ont aussi rassemblé des éléments qui prouvent qu'il y a une erreur d'identité.
D'ailleurs, RFI a même diffusé 3 témoignages exclusifs.
Ouais, exactement, du frère de Medani Tesfamariam, de sa sœur et d'une victime du vrai trafiquant présumé, Medani Yedego Mered. Moi, j'ai aussi pu entrer en contact avec une journaliste érythréenne exilée en Suède et elle affirme avoir interviewé le vrai Medani Yedego Mered. C'était en 2015 par téléphone et elle est absolument catégorique. Pour elle, il s'agit d'une erreur judiciaire. Pour elle, la justice italienne ne veut tout simplement pas reconnaître qu'elle s'est trompée d'homme.
Alors, pour autant, à l'annonce de son arrestation et de son extradition du Soudan, on se souvient que le parquet de Palerme, la classe politique, d'une façon générale, la classe politique italienne, s'était félicitée de la bonne issue de cette enquête.
Oui, plusieurs personnalités de la classe politique avaient aussi salué une opération brillante et s'étaient félicitées de cette arrestation. Si l'erreur d'identité est confirmée, on imagine bien que la crédibilité de la justice italienne sera remise en cause dans cette affaire qui est délicate.
Idriss nous demandait quelle peine encourt Medani Tessa Mariam.
Si on met bout à bout tout ce qui est reproché à Medani Yedego Mered, donc le vrai trafiquant présumé de migrants, le jeune homme qui se trouve dans le box des accusés risque 30 ans de prison. Mais son avocat m'expliquait qu'il y a peu de chances que cela se produise, ça fonctionne pas comme ça. Si la justice italienne ne reconnaît pas l'erreur d'identité, l'accusé encourt plutôt 20 ans d'emprisonnement.
Idriss, à Abidjan. On a répondu à vos questions?
Oui, très bien répondu. Merci beaucoup, Ron.
Merci à vous, bonne journée. Merci à Clémentine Pavlotsky qui est venue vous répondre. 10h16 à Paris, vos questions 339-693-693-70. Jo nous rejoint, il nous appelle de Cotonou. Bonjour Jo.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
En fait, une délégation de sénateurs haïtiens était en visite au Bénin pour s'inspirer du code pénal béninois à propos du phénomène de zombification sévissant en Haïti. Comment expliquer que le phénomène de zombification n'existe pas au Bénin, qui est pourtant le lieu d'origine du culte vaudou? Et je veux savoir aussi si les solutions du Bénin sont-elles applicables à Haïti?
Alors, Haïti veut intégrer dans son nouveau code pénal les actes considérés comme de la sorcellerie. Du coup, une délégation de sénateurs haïtiens s'est rendue au Bénin, pays du Vaudou, pour tenter de s'inspirer de la législation béninoise. Bonjour Delphine Bousquet.
Juan, bonjour.
Correspondante de RFI à Cotonou. Alors, nous parlons de zombification. Déjà, expliquez-nous le phénomène.
Alors effectivement, c'est un phénomène qu'on trouve en Haïti, surtout dans les zones reculées ou au sein des couches populaires où le vaudou est pratiqué. Une personne est constatée cliniquement morte, elle est enterrée au vu et au su de tous, et deux, trois jours après, elle ressuscite. Celle, c'est que cette personne qui semble revenue d'entre les morts travaille comme esclave dans les champs, dans une maison ou encore un commerce.
Alors, des chercheurs ont évidemment enquêté sur ce phénomène pour comprendre finalement s'il était réel ou irrationnel. Quel bilan peut-on dresser alors?
Alors, les trois sénateurs que j'ai rencontrés lors de leur séjour au Bénin parlaient d'un phénomène réel mais abstrait. Eux-mêmes n'en ont pas été témoins, mais ils ont rencontré des témoins ou des acteurs. Alors l'explication la plus cartésienne donnée par les chercheurs est la suivante. Ces zombies seraient victimes des rongans, les prêtres vaudous. Ces prêtres administreraient une poudre obtenue avec un mélange de plantes et de produits d'origine animale qui s'attaque au cœur et au système nerveux. Résultat, les battements de cœur sont si faibles qu'on ne peut pas les entendre avec un stéthoscope, donc on conclut au décès. Ensuite, le soi-disant défunt est déterré, souvent avec la complicité de croque-morts. Il se trouve dans un état de semi-conscience, donc de faiblesse, et il est loué ou exploité. C'est un commanditaire qui fait appel au prêtre vaudou pour se faire justice ou se venger, ou simplement par jalousie.
Alors expliquez-nous pourquoi le Bénin, berceau du vaudou, ne pratique pas la zombification.
Alors la zombification telle qu'elle est pratiquée en Haïti n'existe pas ici, mais le procédé existe, c'est-à-dire l'utilisation de cette poudre, ça se passe dans le secret des temples, certains initiés vivent cette expérience de quasi-mort clinique pour être plus forts, mais avec l'antidote à portée de main, et ils le font de leur plein gré, personne n'est réduit en esclavage. Il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle le mekwade, une personne est revue loin de chez elle après avoir été inhumée, souvent c'est une femme, qui fonde une autre famille et qui revient quelques années plus tard à son premier domicile. Mais là aussi, il n'y a pas d'intention de nuire.
Ouais. Alors, le phénomène est donc réel, bien réel en Haïti. Comment se fait-il que les Haïtiens en ont fait un autre usage que les Béninois?
Alors, d'après les sénateurs qui sont venus et qui se sont bien documentés sur le sujet, les descendants d'esclaves, ceux qui avaient la connaissance du vaudou, auraient utilisé ce savoir pour mettre au point des tactiques utile pour leur lutte contre les colons français, et nombre d'esclaves sont partis du Bénin, enfin de la côte des esclaves. On le rappelle, Haïti a été la première république noire indépendante en 1804. Cela fait dire aux parlementaires que l'élève haïtien a dépassé le maître béninois, mais ils disent aussi que si ça a pu servir à obtenir la liberté, aujourd'hui, ça fait du mal à la société haïtienne et on revient à l'esclavage.
Ouais, donc le problème, on l'a bien compris, ne s'oppose pas au Bénin. Est-ce que les sénateurs haïtiens ont tout de même trouvé des solutions sur place ?
Il faut replacer cette visite dans son contexte. Ils sont venus, Joe l'a dit, parce qu'Haïti réforme son code pénal et son code de procédure pénale qui date de 1835 et veut intégrer des questions actuelles comme l'avortement, l'euthanasie, mais aussi la zombification. En Haïti, certains ont recours à ces prêtres vaudous car ils ne font pas confiance à la justice de proximité et ils veulent régler leurs comptes eux-mêmes. Au Bénin, certains ont aussi recours aux féticheurs. D'ailleurs, ici, on dit qu'il n'y a pas de mort naturelle et que c'est toujours à cause de quelqu'un qui a utilisé des gris-gris contre vous. Mais au Bénin, il y a ce qu'on appelle la justice traditionnelle. Elle joue un grand rôle et ça, ça a beaucoup surpris les Haïtiens. Les rois, les chefs vaudous, les notables, les anciens peuvent résoudre des conflits. Les rois sont notamment sollicités pour des disputes de terrain parce qu'ils connaissent l'histoire de la communauté et ils peuvent dire que ça appartient à telle ou telle famille. Ce droit coutumier fonctionne à côté de la justice moderne, il est accepté. Pour conclure, Juan, je cite cette phrase de Jean-Ronel Senatus, le président de la commission justice du Sénat haïtien, à propos des liens entre Haïti et le Bénin. Il a dit « Ce sont les deux facettes d'une même médaille, mais au Bénin, les gens respectent la tradition, alors qu'en Haïti, on la renie. »
Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Delphine Bousquet. Jo, on a répondu à vos questions ?
Oui, totalement.
Bonne journée à Cotonou, merci de votre fidélité. 10h21 à Paris, vos questions et vos réactions, 33 9 693 693 70. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Juan.
Journaliste au service sciences de RFI, on vous a demandé de venir ce matin, car nous avons reçu des questions concernant le prix Nobel de physique 2017. Jean-Marie, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, on va tendre l'oreille, le réseau téléphone visiblement s'est dégradé. Vous nous appelez de Belgorod, c'est en Russie, près de la frontière ukrainienne. Nous vous écoutons.
Oui, en effet, Juan, j'avais une petite préoccupation, oui. Trois chercheurs américains viennent d'être récompensés suite à leurs travaux sur l'observation des ondes gravitationnelles. Alors, j'avais une petite préoccupation à savoir... ma première question de savoir, c'est quoi exactement une onde gravitationnelle ?
Oui. Alors concrètement, Simon Rosé, de quoi parle-t-on, onde gravitationnelle ?
Alors très concrètement, c'est une vibration, une fluctuation de la trame de l'espace-temps. Voilà, on n'est pas beaucoup plus.
Merci de nous avoir éclairé.
C'est un plaisir. C'est Albert Einstein qui le dit quand il fait la théorie de la relativité générale en 1915, donc il y a un peu plus de 100 ans. Ce qu'il dit, c'est que l'espace, vraiment, ce qu'on peut mesurer, ce dans quoi se déplacent les choses, le contenant, en fait, de l'univers, il dit que l'espace est élastique, c'est-à-dire qu'il peut être déformé par ce qu'il contient. L'image qu'on prend très souvent, c'est celle, par exemple, d'un grand drap tendu. Vous posez une boule de pétanque au milieu, ça va faire un espèce de puits. Ça va être le soleil qui va déformer l'espace parce qu'il est très lourd, parce qu'il est très massif. Et en fait, les planètes vont tourner autour sur les bords de ce puits qui est formé. Ce que fait la Terre, en fait, elle tombe en permanence vers le soleil puisqu'elle est sur le bord de ce puits. Mais elle va assez vite pour se maintenir en équilibre sur un bord comme ça. Une onde gravitationnelle, ça va être le moment où, en fait, on va faire vibrer ce drap, qui a provoqué une onde qui va se répandre comme ça sur toute la longueur du drap à la vitesse de la lumière. Et qu'est-ce qui peut faire vibrer ? Ça va être un événement très violent. En l'occurrence, ce qu'ont observé les chercheurs, la première détection d'ondes gravitationnelles, c'était en septembre 2015. Mmh. Ce sont deux trous noirs. Donc un trou noir, c'est quelque chose qui est extrêmement massif. On parle de 40-50 fois la masse totale du Soleil. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez lourd. Et deux trous noirs qui vont fusionner. Et le choc va être tellement cataclysmique que ça va faire vibrer ce drap. Ça va faire en fait vibrer l'espace. Mmh. Et concrètement, en fait, ce qu'on va ressentir... Bon, on va rien ressentir.
Et le choc dont vous nous parlez a eu lieu il y a plus d'un milliard d'années.
Oui, parce qu'en fait, ces deux trous noirs se trouvent à un milliard d'années-lumière de nous. Donc le temps que l'information nous parvienne, vu que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière, donc en l'occurrence 300 000 km par seconde, eh bien le temps de parcourir cette distance, il s'est passé un milliard d'années.
Ouais. Jean-Marie ?
Oui, allô ?
C'est un peu plus clair, désormais.
Oui, d'accord.
Vous avez une autre question ?
Oui, j'avais une autre question. Oui, j'aimerais savoir quelles sont les applications concrètes que la science espère avoir sur ces découvertes.
Concrètement, ça nous sert à quoi, Simon Rosé, cette découverte?
Bon, c'est de la recherche fondamentale, hein. C'est toujours mieux comprendre l'univers. Avant, on avait un seul moyen pour étudier l'univers, c'est la lumière. Alors, la lumière au sens large, hein, quand on dit lumière, c'est rayon gamma, rayon X, rayon UV, onde radio, tout ça, c'est de la lumière au sens physique. Le problème, c'est que tout ce qui n'émet pas de lumière, et par définition, on le voit pas. Les trous noirs, par exemple, n'émettent pas de lumière, donc comment faire pour les analyser et tout ça? Et donc là, on a un nouvel outil, en fait, qui est complètement différent, qui c'est vraiment la gravitation en elle-même qu'on utilise pour étudier ces objets qui étaient très mal connus. Donc ça va nous permettre de comprendre toujours un peu mieux l'univers. Donc c'est intéressant. Donc dans la vie de tous les jours, non, ça changera pas grand-chose, mais pour la curiosité, la recherche fondamentale, c'est toujours très très intéressant. Et il y a une analogie qui a été faite au moment de l'annonce de cette première détection. C'est un peu similaire à l'invention de la lunette astronomique par Galilée. Pour la première fois, il y a tout un pan de l'univers qui s'ouvre à nous, qu'on ne pouvait pas voir, qui était complètement inaccessible à nos sens. Et maintenant, c'est possible. On peut faire de l'astronomie gravitationnelle à comparer avec l'astronomie optique qu'on faisait jusqu'à maintenant.
Donc, une nouvelle façon de voir l'univers. Simon Rosé, merci beaucoup. Je rappelle que demain, vous serez à mes côtés pour une émission spéciale. Thomas Pesquet, l'astronaute français, sera dans ce studio pour dialoguer évidemment avec les auditeurs de RFI. Vous avez certainement des questions sur son aventure exceptionnelle à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Donc surtout, n'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant, inscrivez-vous au 33 9 693 693 70. Thomas Pesquet, vous l'avez suivi, vous, Simon, pendant 6 mois. Vous étiez sur Terre, mais lui était dans l'espace.
Et il nous envoyait son petit journal de bord sur RFI, Radio France Interplanétaire. Oui, Thomas nous a raconté sa mission pendant 6 mois sur l'antenne, de son décollage aux expériences scientifiques qu'il a réalisées, la coopération internationale qu'il existe dans l'espace. Donc il viendra nous répondre demain à toutes les questions des auditeurs sur sa mission.
Et mon petit doigt me dit qu'il y aura du monde au standard et beaucoup de monde en studio pour une photo souvenir. À demain, Simon Rosé. Merci à vous. Nous rejoint à l'instant Fred, qui est à Brazzaville. Bonjour Fred.
Bonjour Yann Gomez, bonjour tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions, vous, sur les mystérieuses attaques supersoniques dont le personnel diplomatique américain a été la cible à Cuba.
Oui, les États-Unis ont rappelé la moitié du personnel de leur ambassade suite à l'attaque acoustique à La Havane. Et l'enquête n'a toutefois pas permis d'identifier l'auteur de ces attaques. Est-ce que les États-Unis accusent-ils Cuba d'être l'auteur de ces attaques? Que pourrait avoir intérêt à ce que les relations diplomatiques entre les deux pays se dégradent?
C'est vrai que c'est digne d'un roman d'espionnage. Hein. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour Juan.
Professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire aux grandes écoles, spécialiste des États-Unis. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Trump, candidat des pauvres, président des riches. Depuis maintenant quasiment un an, des diplomates américains en poste à La Havane se plaignent de vertiges, de nausées, de perte de mémoire, de sifflements dans les oreilles. L'affaire est prise très au sérieux à la Maison-Blanche.
Ah oui, elle est prise très au sérieux, car cette semaine, encore, Donald Trump et son administration ont non seulement rapatrié les diplomates qui étaient victimes de ces malaises, mais ils ont encore durci les conditions d'accès pour les Américains à La Havane. En effet, le département d'État a recommandé aux voyageurs de ne pas aller à La Havane, puisqu'on a même appris que des voyageurs, des simples voyageurs, des simples touristes, s'étaient pleins eux aussi de malaise.
Alors qui serait derrière ces fameuses attaques supersoniques, acoustiques?
Alors, on ne sait pas, et c'est bien un mystère, parce que la seule personne à qui ça profite en premier lieu, c'est bien Trump et son administration. En effet, Donald Trump est revenu, on s'en souvient, sur la politique d'ouverture de Barack Obama à Cuba, supprimant par exemple la possibilité pour les touristes américains de voyager librement à Cuba. Les touristes maintenant américains doivent de nouveau passer par des tours opérateurs qui ont un permis délivré par l'État américain. Et bien, ça a permis à Donald Trump de confirmer en quelque sorte cette reglaciation, ce redurcissement. Donc, Cuba, le régime de Cuba lui-même a dénoncé d'ailleurs l'attitude des États-Unis, car pour répondre à la question de l'auditeur, les États-Unis n'accusent pas Cuba d'être responsable de ces attaques, mais a accusé Cuba de n'avoir rien fait, de ne pas avoir protégé ses diplomates, et c'est pour cela que les États-Unis ont renvoyé en punition, en représailles, 15 diplomates cubains des États-Unis. Mmh. Et donc, en fait, on voit que cela confirme, ça semble confirmer la politique de reglaciation de Trump envers Cuba, de refermeture, oui. On va dire, de Trump
envers Cuba. En tout cas, à l'heure actuelle, le mystère reste entier. Merci beaucoup, Corentin Célin.